Bon, premièrement, je dois dire que je suis assez impressionné par la présidence par Raphaël. Les cantiques, c'était choisi par rapport au titre du message, c'est ça? C'est ça qui m'épate. C'était très bien fait. Sérieux, ça m'épate. Toutes les chaînes étaient vraiment d'aplomb avec ce que je veux vous apporter ce soir, puis aussi comment tu as présenté ça. Merci pour ton ministère. Tournons, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, comme vous le voyez la référence au tableau. On va faire une lecture, premièrement, des versets 21 à 38. Ce n'est pas une si longue section que ça, même si, pareil, avoir tellement de versets. C'est quand même un bloc de texte assez court. 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur, c'est ta parole. Elle est là pour nous faire du bien, pour nous encourager, pour nous exhorter, parfois pour nous reprendre et nous corriger. Seigneur, nous te prions que ta parole parle à nos cœurs, chacun de nous ici ce soir, et selon ta volonté. Merci, notre Dieu, de nous donner le privilège d'être ainsi réunis. Amen. Le plan il est très simple de ce que je veux vous présenter ce soir, et vous l'avez maintenant à l'écran. Donc, entre la trahison et le reniement, l'amour. Donc, on va faire premièrement une introduction, on va voir le contexte de cette section-là. Ensuite, on va voir comment Jésus annonce la trahison de Judas, comment il va mettre en valeur le lien de l'amour, et puis ensuite, comment il va annoncer le reniement de Pierre. Écoutez, bien honnêtement, je ne suis pas sans ignorer, je n'ignore pas et je ne suis pas sans savoir que l'Assemblée vit une crise particulière ici présentement, que l'Assemblée passe à travers des difficultés. Je ne connais pas tous les détails. Tous ceux qui s'occupent de moi ont voulu me tenir à l'écart, puis je pense que c'est une bonne chose, mais quand même, bon, ce n'est pas un secret pour personne dans la région que l'Assemblée du Cap passe un temps difficile, va être devant des défis là, qui s'en viennent, puis tout ça. Donc, il y a des crises parfois qui touchent nos églises locales. Et je priais le Seigneur, je dis, j'aimerais présenter quelque chose qui puisse encourager les chrétiens du Cap. Et je pensais que cette situation-là pouvait vraiment être une situation dans laquelle, ici, on peut trouver un encouragement par rapport aux choses qu'on vit. Alors, je suis très clair, hein? Moi, c'est ceux qui me connaissent, ça, je ne passe pas par... Des fois, je suis trop direct, mais... Honnêtement, je suis très clair, c'est ce que je veux faire ce soir, c'est ce que j'avais à cœur de faire. Puis, écoutez, on est dans une situation où une petite poignée de disciples sont réunis ensemble, dans un temps où il y a de l'angoisse, dans un temps où il y a beaucoup d'anxiété, de nervosité. On sait que Jésus n'est pas le bienvenu en Judée. On est caché quelque part dans une chambre haute à Jérusalem, alors qu'il y a du brouhaha partout dans la ville à cause de Jésus. On sait tellement que c'est une situation difficile que quand il était question de revenir en Judée alors que le Seigneur Jésus était avec ses disciples de l'autre côté du Jourdain en péri, lorsqu'il a dit « Allons de l'autre côté à cause de Lazare », Thomas avait dit « Allons avec lui afin de mourir avec lui ». Il considérait de retourner en Judée à Jérusalem comme une possibilité de mourir. Ils sont là, là. Vous savez, les chapitres 13 à 18 de l'Évangile de Jean, c'est pas mal de matériel, ça. Savez-vous, ça couvre combien de temps, ça? Une soirée. Ça se passe tout le jeudi soir, si vous voulez. La veille de la crucifixion, dans quelques heures, Jésus va être effectivement cloué sur une croix, dans quelques heures seulement. Il y a une tension palpable au sein de ce petit groupe-là. Et là, ils sont réunis ensemble où Jésus donne des instructions, où il fait des trucs qui leur semblent bizarres. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il nous lave les pieds, puis... Il y a une certaine anxiété qui règne. C'est drôle comment des fois les portraits peuvent nous présenter la Sainte Cène ou la chambre haute, là, où là, tout le monde sont sur le bon côté de la table pour la photo. Là. Puis ils sont tous là en train d'attendre. C'est comme le petit sourire un petit peu niaiseux sur les lèvres. Tu sais les peintures du Moyen-Âge là, de la Sainte Cène. Moi, je trouve ça ridicule. Pas comme ça du tout. Ils étaient couchés par terre, comme la tradition juive l'exigeait. Ils étaient en train de prendre un repas d'une Pâque juive et ils étaient dans un moment de trouble et d'anxiété. Essayez de ressentir un peu ce que vivait ce petit groupe-là à la lumière de tous les événements qui venaient de se produire, à la lumière du fait que se retrouver en Judée, à Jérusalem avec Jésus, c'était frôler la mort. Jusqu'à ce point-là, c'est comme ça qu'il y en a qui considéraient ça. Et là, comme si ce n'est pas assez, dans la chambre haute, deux événements qui vont particulièrement ébranler le groupe. Une trahison, un reniement. Mon but, puis je vais le dire tout de suite, là, essayez pas de trouver c'est qui dans votre histoire, Judas puis Pierre. Ça marche-tu? On ne fera pas ça. C'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer comment dans un petit groupe qui vivait une anxiété, une angoisse et qui était face à des difficultés importantes au sein d'un petit groupe, c'est quand même deux événements assez extraordinaires qu'au milieu de 12, il y en a un qui va trahir, l'autre va renier, là, c'est quand même fort. Et puis, comment Jésus a dit en plein cœur de ce passage-là que ce qui va les tenir debout, c'est l'amour. C'est juste ça que je veux vous retenir. Si je pouvais fermer ma Bible, m'en aller... Mais je vais détailler un petit peu plus ça. Pour comprendre, relisons un peu le contexte dans les versets 18 à 20. Okay? On fait juste comme un petit recul par rapport à la section pour avoir le contexte. « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ça fait des drôles de phrases, ça. tu viens de le lire, puis tu te dis, qu'est-ce que ça dit, ça, déjà? Mais Jésus, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de donner aux disciples un exemple à suivre dans les relations mutuelles. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant cette section-là? Du chapitre 13, versets 1 à 17, Jésus a lavé les pieds. Il leur a montré comment gérer leurs relations les uns envers les autres, sur le principe de l'humilité, évidemment, parce que Jésus n'a pas voulu enseigner littéralement le lavage des pieds, parce qu'il n'aurait pas dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Si c'était juste de laver les pieds, il aurait pu dire, ben oui, c'est parce qu'on a toujours fait ça dans la tradition juive, se laver les pieds avant le repas. Mais il y avait un sens à ça. Il y avait une signification et ils devaient comprendre comment Jésus est en train de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour tisser des liens serrés à l'intérieur de cette petite communauté-là qui est appelée à grandir. Puis c'était entre autres d'avoir suffisamment d'humilité les uns envers les autres pour considérer l'autre. Le Seigneur est dit au verset 17, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses » mais pourvu que vous les pratiquiez, il faut que tu les fasses. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va agir comme ça. C'est pourquoi je crois qu'au verset 18, immédiatement après, il va aborder la question de la trahison de Judas. Je pense que c'est une chose que les disciples ignoraient complètement. En fait, ils ne voient même pas du tout venir. Puis, le Seigneur annonce d'avance les événements, ce qui s'en vient, afin de prévenir les disciples pour pas qu'ils perdent courage quand ils seront frappés par une crise importante, pour qu'ils continuent à mettre leur confiance dans le Seigneur malgré des événements angoissants, inquiétants, troublants. Alors, ils doivent continuer à faire confiance au Seigneur. Et dans le verset 20, le Seigneur rappelle aux disciples qui vont être bientôt envoyés avec le message de l'Évangile. Et même si certains sont contre le Seigneur, en parlant comme de Judas dans le passage ici, si on veut, il y en a d'autres qui vont le recevoir à travers les envoyés. Si tout ça, c'est pour les encourager à continuer puis à porter le flambeau. Il y a des gens qui vont vous recevoir. Parce que t'imagines dans un petit groupe qui éclate parce qu'il y a un problème sérieux, et même deux, je dirais, dans le passage qui nous préoccupe. Écoutez, ça peut décourager au point de baisser les bras même. En tant que chrétien, comme témoin du Seigneur, puis aussi comme disciple. Hein? Alors, ils devront continuer à aller de l'avant. Et je pense que c'est une parole dans le verset 20 qui devait servir à encourager les disciples en face de la trahison de Judas qu'il était sur le point là, de révéler. C'est comme si le Seigneur leur disait, « Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont vous recevoir et par le fait même qui vont recevoir aussi mon Père. » Et par le fait même, vous allez rester en communion avec moi et vous allez porter du fruit et vous allez porter le flambeau. Moi, je crois que c'est ça le sens de cette parole-là. Oh, je ne suis pas sûr que les disciples, c'est tout ce qu'ils ont gobé et qu'ils ont catché. Là. Il y a bien des choses qu'ils ont entendues et que le Seigneur devra leur répéter plus tard après la résurrection et même que le Saint-Esprit devra leur rappeler lorsqu'ils rédigeront un récit des événements. Le Seigneur va leur rappeler ces choses-là et va même les éclairer pour qu'ils catchent, pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des choses qui leur échappaient, ça fait aucun doute. Alors, dans les versets 21 à 30, nous voyons que le Seigneur Jésus, maintenant, suite à ça, de cette façon de les préparer un peu à ce qui s'en vient, il va annoncer la trahison de Judas. On va simplement lire les versets 21-22 à nouveau, s'il vous plaît. « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. » Quand on lit ça ici, que Jésus a été troublé dans Jean 13, c'est la troisième fois dans l'Évangile de Jean qu'on voit le Seigneur troublé. C'est la troisième fois. La première fois, c'est un petit peu avant, dans Jean 11, verset 33. Le Seigneur était troublé en face de l'incrédulité des Juifs devant la perspective de la mort. Puis là, il était troublé en lui-même. C'est même un verbe dans le texte original grec qui comporte une notion de colère. Il est troublé, voire même choqué. En bon québécois, là, ça voudrait pas dire la même affaire en Europe, mais fâché, si vous voulez, de voir l'incrédulité des Juifs, ça le trouble profondément. Et l'autre fois, ensuite, un petit peu encore après Lazare, chapitre 12, verset 27, le Seigneur Jésus, il est troublé devant la perspective de la croix. C'est dans le verset 27. Il voit la croix venir et le Seigneur est troublé. Et ici, il est troublé pourquoi? Il est troublé devant la trahison imminente de Judas. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'on pourrait évaluer comment le Seigneur Jésus se sentait à ce moment-là. Comment essayer d'entrer dans ses sentiments et de comprendre ce qu'il pouvait vivre. C'est tellement difficile d'évaluer la pleine force des émotions vécues par le Seigneur à chacune de ces occasions-là. C'est impossible. Mais par contre, on a un beau verset dans Hébreux qui nous dit ceci, chapitre 2, verset 18, je vous le lis, pas besoin de tourner. « Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. » Ça, c'est la traduction Tob. Le Seigneur, on ne comprend pas ce qu'il a vécu, mais on sait qu'il a souffert. Et parce qu'on sait qu'il a souffert, il me semble que c'est un encouragement pour nous autres quand on souffre, parce qu'on peut aller vers lui. Maintenant, moi j'ai une question que je me pose. Qui a dit à Jean, qui a rédigé l'Évangile, que Jésus était profondément troublé en lui-même? Que pour savoir ça? Une question, hein? Comment il a fait pour savoir ça? Ben, c'est certainement le Seigneur lui-même qui lui a dit, après la résurrection, probablement, après les événements, il a passé quand même du temps avec eux pour leur apprendre cela. Le Seigneur a voulu qu'on sache ce qui se passait en dedans de lui. Tu sais, il fut troublé en lui-même. Il n'y a pas personne qui peut savoir ça. Tu sais, à moins que le gars, il chèque de même, là, tu te doutes qu'il y a un petit problème. T'sais. Mais je pense que c'est une révélation du Seigneur. Quelle grâce de sa part de nous dire des choses comme ça. Quelque part, ça ne nous encourage pas de savoir que Jésus lui-même a été troublé en face de certains événements. Il me semble que de savoir ça, ça nous rapproche de lui un peu. Il sait ce qu'on vit, le Seigneur. Ça fait aucun doute. C'est pour ça qu'on peut s'en remettre entièrement à lui quand on vit des choses. Avez-vous des choses qui vous troublent? Avez-vous des angoisses, des anxiétés? Il sait ce que c'est. C'est peine d'aller à lui, puis de lui présenter, puis de lui déposer à ses pieds. Donc, le Seigneur, dans ces versets 21 et 22-là, il annonce qu'il va être trahi. Là, tu sais, on est vraiment platonique, nous autres. Pour ne pas dire on est plate, là, tu sais, on ne voit pas l'émotion, on ne voit pas l'action. Tu sais, on lit ça, tu sais, le Seigneur il dit qu'il va les trahir, puis là, les gars, ils checkent les uns les autres, puis OK, puis c'est OK, Jésus, il amène le disciple là, puis c'est. Tu sais, t'imagines, ils sont là, dans la chambre haute, avec toute cette ambiance un peu d'angoisse et d'anxiété, un peu. J'aurais bien voulu voir ça, moi, de proche. Ça devait être un petit peu plus élevé que je pense, un cran plus haut. Et puis là, tout d'un coup, on est réunis au repas, on ne comprend pas tout ce que Jésus dit, on ne comprend pas tout ce qu'il fait, il y a plein de questions qui n'arrêtent pas de bouillir dans la tête. Là. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il nous annonce comme ça? Il y en a un de vous autres qui va me trahir. Quoi? C'est pas... Ah ouais, ah. Eh bien, coudon, c'est poche. Le texte grec, dans les mots qu'il utilise à travers les récits des quatre évangiles pour nous rapporter ces événements-là, ben, ce n'est pas dans les quatre évangiles, mais l'état de confusion de la chambre haute, on l'a ailleurs. Puis c'est vraiment un état de confusion qui règne à ce moment-là. Et de toute évidence, il n'avait pas venu venir le coup. Il devait vraiment se dire, c'est qui de nous autres qui peut faire une chose pareille? Qui des 12 qui avait pourtant tout abandonné pour suivre le Seigneur pouvait faire une chose pareille? Déjà que l'unité au sein d'un groupe, c'est difficile à maintenir. C'est très difficile, ça. Bang! Il y en a un qui va trahir. Bon, c'est le fun, ça. Les disciples, vous savez, l'unité, là, c'était coussi coussa, hein. Ils s'étaient déjà querellés pour des choses comme « c'est qui le plus grand parmi nous? » Fait qu'ils étaient bien capables là, de briser eux-mêmes leur propre unité. Ils avaient déjà eu certaines difficultés, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que Jésus leur dise un moment donné, il y en a un dans la gang, il va me trahir. C'est fort, ça, là. Là. OK, on peut chicaner pour des petites affaires, mais là, attends une minute, là, ça va loin. Hey, j'imagine combien de soupçons et de mauvais sentiments ont dû naître dans le cœur des disciples à ce moment-là. « Hey, c'est-tu lui qui aurait fait ça? » C'est écœurant. Non, mais c'est des hommes comme nous. Vous ne pensez pas qu'ils ont pris ça de même? Se faire dire « L'un de vous va me trahir. » J'ai à côté, « Ah ouais, c'est qui? T'sais, ça nous intéresse. » Hey, ça devait les fesser à pleine face, ça. Ils devaient vraiment se dire « Mais qui c'est qui fait ça? » Je pense que... Personne n'a jamais pensé que ça aurait pu arriver. D'après l'évangile de Matthieu, on lit qu'ils étaient profondément attristés par cette déclaration du Seigneur. Ça les a profondément attristés, une expression qui est intense. Puis quand on lit les autres parallèles, là, les autres passages parallèles dans les évangiles, on voit que les disciples ont commencé à se questionner les uns les autres. Là, t'avois-tu la scène un peu dans ton esprit de l'air, là? Quand c'est arrivé, puis que Jésus annonce cette trahison-là, ils se regardent les uns les autres, ben voyons donc, c'est toi qui va faire ça? Puis là, il était profondément attristé, il était démoli par une pareille déclaration, un petit groupe de 12. Ils commencent à se questionner les uns les autres. Et puis même, si on lit les quatre évangiles en parallèle et qu'on regarde tous les événements de ça, ils ont commencé à demander au Seigneur, un à un, si c'était lui qui allait faire ça. C'est-tu moi, Seigneur, qui va faire ça? L'autre, c'est-tu moi, Seigneur? Hey, j'imagine que ça va se faire dans la cacophonie, puis dans un vif débat. Si c'était pas là, une petite discussion là, paisible autour d'une table carrée, puis en mangeant son bol de riz ou je sais pas quoi. Là. Quand je suis allé au Congo, j'ai réalisé comment des questions difficiles pouvaient soulever un groupe comme vous ne pouvez pas vous imaginer. En 2010, à mon deuxième voyage au Congo-Kinshasa, j'ai lancé une bombe dans la classe, puis ce n'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai perdu complètement le contrôle des 60 étudiants qu'il y avait là. J'ai simplement fait une affirmation bien basique. Mais ça a fait que ça s'est... Il y en a un qui s'est levé debout, littéralement. Ah! Puis la voix, je ne crierai pas comme lui parce que là, vous avez à l'oeil des plaintes des voisins, mais il criait fort. Puis là, il y en a un autre qui se lève, puis ça commence. Il ne saillissait pas, là. Il ne voulait pas se frapper d'en face, là. Mais ils se relançaient l'un l'autre. Ça, c'est une culture où, quand on a de quoi à dire, un vif débat, c'est incroyable comment ça peut devenir chaud. Puis, assez que là, j'étais debout en avance. Time out, excusez, une minute. Puis, finalement, c'est juste ce que j'ai fait. J'ai remballé mes affaires, puis je suis foutu le camp. Je suis revenu 2 heures plus tard. Puis, l'heure après, quand je suis rentré dans la classe, ça parle encore, mais c'était plus quand. Mais il y a un modérateur, on l'appelle de même. Il a dit, oh, le prof est revenu, je pense, on va l'écouter. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Il t'avait une confusion dans la salle parce que j'avais lancé une bombe que j'avais jamais pensé lancer. Mais c'était une bonne réflexion qu'il devait faire, mais c'était très difficile. Puis j'imagine que c'est à peu près ça qui est arrivé. C'est toute une bombe que le Seigneur vient de lancer là, dans le groupe des 12. L'un de vous va me trahir. Il commence à se regarder les uns les autres. C'est qui va faire ça? C'est toi qui va faire ça? Puis après, c'est le Seigneur. Seigneur, c'est qui va faire ça? Je lis correctement les passages parallèles. Savez-vous ce que je découvre? Que le Seigneur les a laissés débattre la question sans répondre. Intéressant, ça. Le Seigneur les a regardés faire. Il a lancé une bombe, bang! Puis là, foum, ça passe. Le feu prend dans le groupe, puis le Seigneur les regarde faire. Hey, c'est évident, tu as juste à lire les quatre évangiles en parallèle, tu vas voir. Le Seigneur répond pas, ne bouge pas. Il y a toute cette confusion-là qui règne, il y a toutes ces accusations mutuelles qui se produisent, et il y a toutes ces questions envers Jésus, c'est qui va faire ça? Puis Jésus ne répond pas. Quel temps d'épreuve pour le petit groupe! Est-ce qu'on peut s'imaginer la confusion qui régnait à ce moment-là, dans ce petit groupe-là? Alors c'est sûr qu'un gars vrai et authentique comme Pierre, lui ça y prend une réponse. Il niaisera pas avec le POC, comme on dit, là. Ça prend une réponse, c'est quoi le problème? Et c'est là qu'on arrive au verset 23-25. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » L'apôtre Jean est ce disciple que Jésus aimait ici. C'est une phrase qu'il utilise pour se décrire lui-même au lieu de se nommer dans cet évangile-là. Jean, il était très, très près du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur l'aimait plus que les autres ou qu'il aimait juste lui. Ça veut dire, voici comment moi, Jean, je me vois par rapport au Seigneur. Le Seigneur m'aime. C'est comme si Jean nous disait, Jésus m'aime, quand il écrit cette phrase-là. Et on ne sait pas pour quelle raison, il n'y a pas de raison spécifique qui nous sont données, mais les deux personnes les plus proches du Seigneur, au repas du Seigneur, c'était qui? Est-ce que vous savez? Les deux personnes les plus proches du Seigneur. Jean, puis l'autre. Judas, exactement. Et comment on fait pour savoir ça? Jésus lui donne. Il s'agit de savoir, il va lui donner le pain. Des fois, ma tête va trop vite. Puis, en dedans, ça ne paraît pas, mais en tout cas. Faut savoir comment les Juifs étaient. Hein? Traditionnellement, ils étaient appuyés sur le côté gauche, semble-t-il, avec les jambes pliées vers l'arrière, ce qui explique comment une femme peut venir pleurer à ses pieds alors qu'il est couché. Puis, ils sont couchés, puis là, sur des coussins, puis une petite table très, très basse sur laquelle se trouve la nourriture. Et puis, ils sont tous placés comme ça, si vous voulez, comme en cercle, comme des dominos, mais couchés. Vous me suivez? Puis, Jean est probablement celui qui est juste devant le Seigneur. Et puis, parce que c'est probablement un endroit peut-être restreint, je ne sais pas, ils sont assez près les uns des autres. Puis, Jean est assez près du Seigneur pour être considéré comme étant sur son sein, c'est-à-dire son chest, sa poitrine. Et probablement que c'est Judas qui est tout de suite après, parce qu'il doit être assez proche pour que le Seigneur puisse lui donner le morceau de pain qu'il a trempé. Et Pierre, lui, il est à une certaine distance pour faire signe à Jean. Ça, c'est la situation dans laquelle ils étaient placés. Alors, quand on lit qu'il était couché sur le sein de Jésus, ça n'implique pas un contact physique. Parce qu'on voit très bien dans le verset 25, juste un petit peu plus loin, au verset 25, que le disciple, pour poser la question, là, doit se pencher vers le Seigneur. Alors, ils sont couchés comme ça. Il est en hauteur, à la hauteur de la poitrine du Seigneur, mais pour lui poser la question, il doit s'étirer le cou vers l'arrière et pencher la tête vers le Seigneur pour lui poser la question. Je pense que ça jasait fort dans la petite salle à ce moment-là. Alors, c'est ce que va faire Jean. Il va se tourner vers le Seigneur, la tête, va lui poser la question fatale. « Seigneur, c'est qui le coupable? » Et Jésus répond à cette question-là dans les versets 26 à 30 qu'on va relire maintenant. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais regardez le verset 28. « Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. » Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Là, à ce moment-là, après tout le brouhaha, toute la confusion, après toutes les accusations mutuelles et le questionnement au Seigneur, « C'est-tu moi, Seigneur? C'est-tu moi, Seigneur? » que Jésus ne répond pas, Pierre, dans le brouhaha, fait signe, « Pose-y donc la question. Pose-y direct qu'on le sache. » C'est ce que Jean va faire. « Seigneur, c'est qui le coupable? » Et là, le Seigneur va clairement identifier Judas. Je pense que il est possible qu'au sein de la confusion qui devait régner à ce moment précis-là, je pense que tous les disciples n'ont pas nécessairement même entendu la réponse du Seigneur. Mais c'est clair qu'ils ont entendu des choses que le Seigneur a dit à Judas. Ils l'ont entendu parler à Judas, puis n'ont pas compris le sens de ces paroles-là. Écoutez, moi je trouve ça bizarre. Parce que la question, c'était, c'est qui le coupable? Le Seigneur le dit clairement, c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Talk. Puis là, il lui parle, puis il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. Il se lève, et il part. Puis là, les disciples, ils ne comprennent pas. Ils viennent te l'identifier, le coupable, allô? Ils étaient tellement dans la confusion. Imaginez-vous pas là, qu'ils étaient tous silencieux et attendaient. Là. Ça continuait à cacasser là-dedans, c'est certain. De toute façon, c'est clair qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train d'arriver. Ils se demandent ce qui se passe là. Maintenant, le Seigneur parle au verset 27. Est-ce qu'il parle à Judas ou est-ce qu'il parle à Satan? Là, c'est une très bonne question. Le texte grec permet de penser que le Seigneur s'est adressé directement à Satan qui venait d'entrer dans Judas. Moi, c'est ce que je crois personnellement. Mais les deux sont possibles. Et le combat pour le Seigneur était déjà commencé. On savait qu'après la tentation dans le désert, que le diable reviendrait lorsqu'il aurait l'occasion, reviendrait à l'attaque. Et c'est commencé. Là, il est à l'attaque. Puis il va le faire à travers Judas. Puis le Seigneur va livrer tout un combat dans le jardin de Gethsémané au pied de la montagne des Oliviers. Le combat était commencé. Judas, on apprend que c'était le trésorier du groupe. Puis dans Jean 12, versets 4 à 6, on apprend qu'il est un voleur. Ça fit ensemble, pas à peu près ça, hein? Trésorier du groupe puis voleur, oui. Ça assure l'avenir, ça. C'est une chose que les disciples ne savaient pas, ça, de toute évidence. Ils vont le savoir et l'apprendre plus tard. Probablement que c'est le Seigneur qui leur a révélé ça. Alors, au moment où les événements de la chambre haute se produisent, mon Judas quitte la pièce. Il a été identifié par le Seigneur, mais les disciples ne comprennent pas. Ils pensent qu'il est parti acheter ce qui était nécessaire pour la fête des pains sans levain qui suivait la fête de Pâques et qui allait commencer dans quelques heures, ou tout simplement pour donner de l'argent aux pauvres parce que ça faisait partie des traditions entourant la fête juive de Pâques. Dans le fond, là, il y a juste le Seigneur qui sait exactement ce qui se passe. Il y a trop de fusion. C'est la confusion, il y a tellement d'anxiété, d'angoisse et de confusion là qu'ils ne voient plus clair. C'est ça qui arrive souvent dans des crises. Puis c'est le Seigneur seul qui voit clair. C'est lui qui voit non seulement qu'est-ce qui se passe présentement, mais qui sait ce qui va arriver et qui voit les événements qui sont à venir encore. Ah, puis écoute, vous savez comment je tiens très fort, en tout cas si vous ne savez pas, vous allez savoir, je tiens très fort à l'interprétation littérale des Écritures, c'est-à-dire le sens normal des mots dans leur contexte. Et regardez comment finit le verset 30. « Il faisait nuit ». Littéralement, ça veut dire qu'il faisait nuit. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand je considère la situation, puis tout ça, je vais vous avouer que ça me fait quand même penser que c'est quand même un moment très sombre. C'était quand même un moment très sombre. Je ne sais pas si Jean, c'est ça qu'il avait à l'esprit, j'ai aucune idée. Je ne peux pas ingérer dans le texte qu'est-ce qui n'est pas là. Mais quand je lis, puis je vois toute l'ambiance qu'il y a dans cette chambre-là, et comment c'est un temps difficile, ben, comme on dit souvent, c'était vraiment un temps sombre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que ça va être un temps très ténébreux, très difficile, premièrement pour le Seigneur et aussi pour les disciples qui s'en viennent. De là l'importance de serrer les coudes et de s'aimer les uns les autres. Parce que les temps vont être difficiles. C'est ça qui s'en vient pour eux. Alors, c'est pourquoi Jésus va parler du lien de l'amour dans les versets 31 à 35. Je les lis rapidement. « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En lisant ces lignes-là, j'ai l'impression que le Seigneur voulait calmer les disciples en face de ce qui venait de se passer. Sur le moment, je pense qu'ils n'ont probablement pas compris les paroles du Seigneur à ce moment-là, mais plus tard, ça ne fait aucun doute. Il devait se dire, te rappelles-tu quand il nous a dit ça tout à coup, après que Judas soit parti, après toute la crise qu'on a vécue dans la chambre haute, là, où dans un état de confusion, on s'accusait les uns les autres, puis on bombardait le Seigneur de questions, puis qu'il nous arrive avec ça, bang, la question de s'aimer, et que c'est comme ça que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. En un temps de crise, c'est le temps de s'aimer. C'est ça qu'il leur dit. C'est frappant, on ne peut pas passer aux côtés de cette vérité extraordinaire-là ici. Alors le Seigneur parle de ses propres souffrances à lui, qui ne veut pas, ça va impliquer des difficultés supplémentaires, ce qui s'en vient là. Mais il parle de ses souffrances comme de la gloire. Avez-vous remarqué ça? Le Fils de l'homme est glorifié. Ben oui, il va être crucifié dans moins de 12 heures. Il est glorifié. Mais le Seigneur lit de très près ses souffrances à la gloire à venir, et je vois là qu'il est en train de les encourager, parce qu'il est sur le point de donner sa vie pour ses disciples, puis eux ne peuvent même pas le comprendre. Ils ne peuvent même pas le voir. Alors, ils devaient savoir ça, le Seigneur va leur être enlevé bientôt. Ce que le Seigneur Jésus veut faire dans cette section-là, c'était vraiment de leur montrer qu'il y avait une chose qui allait leur permettre de passer à travers tous les temps difficiles et même la crise qu'ils étaient en train de vivre. Et ce n'est pas fini parce qu'il va annoncer que Pierre va le renier. Il va en prendre ça, tu sais. Hey, c'est toi le leader de la gang en plus. C'est chic. Puis là, ça va être une nouvelle épreuve pour eux. C'est pour ça qu'ils vont avoir encore besoin plus de se serrer les coudes les uns des autres. Je crois que c'est vraiment l'amour fraternel et rien d'autre. Vraiment l'amour fraternel. C'est pas une question d'émotion. C'est pas une question de sentiment. L'amour fraternel, là, ça n'implique pas nécessairement d'être capable de faire des gros bisous puis des câlins à tout le monde. Il y en a que je préfère que restent, tu sais, je veux dire, bon, j'ai une bulle quand même, puis c'est pas tout le monde qui peuvent rentrer dedans. C'est vrai pour vous autres. C'est une réalité. C'est correct. On peut vivre avec ça. L'amour fraternel est surtout un amour de service, un amour de considération. Évidemment qu'il doit impliquer les émotions et les sentiments. Ça fait pas de doute. Mais c'est un amour qui se démontre par des actes concrets, par une attitude qui correspond à ce que le Seigneur Jésus nous a donné comme modèle. Lui, le roi des rois, qu'on n'a rien compris, qu'on a tout bafoué, paf, 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 qui lave les pieds pareil. C'est l'amour fraternel qu'il est en train de décrire. Alors, je vois que le Seigneur va plus loin même que le lien qui va les garder ensemble, mais c'est aussi cet amour-là qui va rendre témoignage aux autres. Ah, les crises, là, ça arrive. Les temps difficiles, ça arrive. Les chrétiens vivent aussi ces choses-là. Comment ils les traversent? C'est ça qui devrait faire la différence avec les gens du monde. D'être capable de les traverser sans perdre l'amour fraternel, même envers ceux qui blessent, même envers ceux qui trahissent, même envers ceux qui renient. Alors, pourquoi ça sera très fort, ce lien-là? Et Jésus annonce une autre épreuve maintenant, après avoir parlé de ce lien de l'amour, le reniement de Pierre, les versets 36 à 38 qu'on lit maintenant. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répond, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. » À quel ton il a dit ça? C'est dur, ça. On lit un texte. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Après avoir annoncé une trahison, le Seigneur annonce maintenant un reniement. L'amour, ça va être important, non? Pas à peu près, hein? Pierre, bon, il veut aller de l'avant. Il est tout courageux, tout ça. Je pense qu'il se trompe sur ses propres intentions, hein? Il se voit pas pantoute comme quelqu'un qui va faire de quoi de grave dans la gang, là. Le Seigneur, il sait des choses, puis il va avoir besoin de revenir aux pieds du Seigneur, de pleurer amèrement, et puis d'être restauré par le Seigneur. Éventuellement, il va apprendre. Avec une conclusion, ce passage-là, je pense qu'il nous enseigne une vérité très profonde, vraiment profonde, l'importance de l'amour fraternel pour traverser des crises, pour traverser des temps difficiles au sein de la communauté des croyants. C'est pas ça qui arrive là. Exactement ça. Ils vivent une crise et c'est l'amour qui va les aider à traverser. Imaginez, coup sur coup, un petit groupe apprend qu'au milieu d'eux, il y a un traître et aussi que quelqu'un va renier, un leader. Comment les autres vont réagir maintenant? Comment ils vont se traiter par rapport, les uns par rapport aux autres maintenant avec cette crise-là? Et alors, le Seigneur savait ce qu'il avait besoin d'entendre, un commandement nouveau. La loi mosaïque, elle disait il y a bien longtemps, de s'aimer et d'aimer son prochain. Mais ce qu'il y a de nouveau dans le commandement par le Seigneur, c'est que les disciples doivent maintenant s'aimer les uns les autres comme le Seigneur les a aimés. Il y a un exemple, un modèle extraordinaire. Ils n'ont pas compris son œuvre. Il y en a un qui va le trahir, il y en a un qui va le renier. Il les aime. Il les aime. Alors, aimez-vous les uns les autres comme ça, comme je vous ai aimé. Quelle belle leçon au milieu d'un conflit important. Quelle belle leçon. Que le Seigneur nous donne cet amour véritable-là qui le caractérise et qui nous aide à traverser les temps difficiles et les crises. Prions. Merci pour ta parole. On a tellement une parole vivante qui est pour nous aujourd'hui. Merci parce qu'on a compris un peu en jetant les regards sur le texte ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans la chambre haute, puis on comprend qu'aujourd'hui, Seigneur, on peut appliquer la leçon principale de ce texte-là, ce que tu as enseigné à ton petit groupe d'apôtres. Tu nous l'enseignes encore aujourd'hui, s'aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Donne-nous, Seigneur, cet amour. Soutiens-nous. Fais qu'ensemble, on puisse se serrer les coudes et passer à travers les temps difficiles et règle les choses à ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, pour toi seulement. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Merci.